André Dimbouy, au Castel Oriental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Okapi qui vous propose Parole aux auditeurs. Les commissaires spéciaux et commissaires spéciaux adjoints des nouvelles provinces ont suivi un séminaire la semaine dernière à Kinshasa. L'objectif de ces séminaires initiés par le gouvernement central était de les outiller dans la bonne gestion de ces nouvelles entités. Ces derniers vont faire face à plusieurs défis, entre autres l'accès à l'énergie et les infrastructures de base. Pour faire face à ces défis, certains observateurs estiment que le gouvernement central devrait définir urgemment, avec ses nouvelles provinces, de mécanismes de financement de ces infrastructures. Une autre opinion pense plutôt que les commissaires spéciaux peuvent, dans la mesure du possible, procéder à des appels d'offres nationaux et internationaux pour financer ces différents domaines. Qu'en pensez-vous? 081-890-7315, c'est le numéro d'appel si vous avez besoin de nous joindre en direct dans ces magazines. Héritier Sidiakala est à la réalisation, à la mise en onde de cette émission réalisée par Julie Fezabongonda qui en assure également la gestion du standard. Pierrot et la Mégie vous la présente au micro sous la supervision de Martin Sebojangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Les nouvelles provinces vont faire face à plusieurs défis, les financements des infrastructures des bases. Plusieurs observateurs estiment qu'effectivement, les commissaires spéciaux et commissaires spéciaux adjoints qui ont été récemment nommés, qui ont suivi une formation à Kinshasa, vont être appelés à définir des mécanismes pour les financements des infrastructures des bases, faire face aux questions qui touchent à l'énergie, l'eau, l'accès à l'électricité, surtout en milieu rural, les infrastructures, que ce soit pour leur fonctionnement. Une certaine opinion estime que tout ceci peut être réglé ensemble avec le gouvernement central dans la définition urgente de mécanismes de financement de ces infrastructures. Mais une autre opinion estime que les commissaires spéciaux peuvent, dans la mesure du possible, procéder à des appels d'offres nationaux et internationaux pour financer certains domaines. Cela a été d'ailleurs évoqué lors de la formation par le ministre de l'Énergie. La loi, pourtant, la loi de programmation numéro 015/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d'installation des nouvelles provinces dans son article 11 avait prévu ceci. Dès l'installation des nouvelles provinces, le gouvernement de la République initie en concertation avec les autorités provinciales un programme d'équipement, de réhabilitation et de construction des infrastructures nécessaires au fonctionnement des nouvelles provinces. Il prévoit sur une période de 5 ans un budget pluriannuel d'investissement destiné au financement des travaux prioritaires des nouvelles provinces. Il procède annuellement à une évaluation des travaux réalisés dans le cadre du programme visé à l'alinéa premier du présent article. Les rapports d'évaluation de ces travaux est présenté à chaque session budgétaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Voilà comment arriver à concrétiser toutes ces promesses et permettre à ces nouvelles provinces de financer les infrastructures des bases. C'est la question au centre de notre échange. Nous avons associé Michel Soumoué qui est avec nous, analyste économique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors comment dans cette configuration on peut arriver à faciliter quand même le financement des infrastructures des bases au niveau des nouvelle province, Michel Soumoué, bonjour.
Bonjour Pierrot et la Mégie. Je ne sais pas si je peux déjà répondre à la question.
Oui, allez-y, oui.
Bon, en premier lieu, je voudrais dire que cette question ne devrait pas se poser aujourd'hui parce qu'elle est supposée avoir été prise en charge au moment de l'élaboration du budget 2015. Étant donné que ce démembrement a eu lieu en 2015, à moins que ça ait été une mesure improvisée. Mais sinon, du point de vue de la rationalité, lorsqu'on a pris une décision d'ordre politique, on doit en avoir prévu les conséquences sur le plan financier. Qu'à cela ne tienne, il faudrait dire quand même, pour répondre à cette question, étant donné la situation générale et globale de notre économie, qui est caractérisée par une extrême pauvreté, Mais il est question effectivement aujourd'hui de définir un programme d'équipement, un programme de réhabilitation et de reconstruction, plutôt de construction même, de nouvelles provinces. Et sinon de l'économie congolaise dans son ensemble. À cet égard, ce que je devrais dire en premier lieu, c'est que il faut d'abord commencer par rendre les dispositions de la Constitution congolaise effectives, notamment l'article 3 de la Constitution, qui stipule que les nouvelles provinces sont dotées de la personnalité juridique. Si ces provinces sont effectivement dotées de la personnalité juridique et qu'elles disposent effectivement de l'autonomie de gestion, cela constitue un préalable important pour permettre à ces provinces d'avoir un pouvoir de décision sur les modalités de leur propre financement, sur la capacité qu'elles ont de gérer les ressources qu'elles vont générer de façon tout à fait, j'allais dire, indépendante des orientations du gouvernement central, dont les ingérences parfois gênent un tout petit peu l'administration. D'ailleurs, si on est arrivé au démembrement, c'est que tout le monde avait souhaité à travers la constitution de notre pays, c'est parce qu'on a ressenti que le gouvernement central était trop distant des entités nationales, notamment des territoires, les secteurs, les chefferies et autres. On ne ressent jamais la présence d'un État, on ne le ressent pas jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, comme vous le voudrez à travers nos villages. Vous vous demandez en quoi l'État est présent, sinon à travers quelques services de la police et de la mer, qui de temps en temps sont pires que gérer la nation. Alors, revenir à la question, savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je me dis, dans la mesure où l'article 3 est rendu effectif, c'est-à-dire où l'État reconnaît à ces entités, aux nouvelles provinces, leur personnalité juridique, il ne se dessine devant nous que trois voies pour que ces provinces puissent s'organiser, s'équiper, se doter des infrastructures de base. La première voie, il est question de faire le choix entre les trois, bien entendu. La première voie dont un État se sert en premier lieu, ce sont ce qu'on appelle des ressources propres. Les provinces aussi sont supposées avoir des ressources ou générer des ressources propres. Mais ces ressources propres, ce sont lesquelles? C'est ce que nous appelons communément les impôts. Mais dans l'état actuel de notre pays, étant donné le degré élevé de la pauvreté, je ne plaiderai jamais en faveur d'une taxation, d'une imposition excessive, même, ou d'une imposition tout court, parce que cela risque de décourager les investissements locaux, les investissements par les nationaux, étant donné qu'on ne doit pas lever l'impôt sur le capital. Il faut attendre un niveau de production donné, ou tout court attendre une production quelconque qui génère des revenus effectifs pour commencer à lever l'impôt. Voilà pourquoi j'ai toujours, moi, personnellement, plaidé pour une amnistie fiscale en faveur des investisseurs nationaux, ne fût-ce que pour une année, afin de permettre à nos économies de s'organiser. Donc je disais que la première voie qui est celle des ressources propres ou de la voie fiscale, la voie des impôts, je ne l'encourage pas beaucoup en ce début. D'ailleurs, ça va créer beaucoup de frustration, des antipathies et même d'ailleurs ça peut me troubler un tout petit peu la paix sociale, ça peut dégénérer vers des désobéissances, etc. Je crois que ça serait imprudent que nos provinces axent leur stratégie sur les impôts, étant donné qu'elles ont d'abord besoin de gagner la confiance de la population. La deuxième voie qu'il faut encourager, c'est celle que moi j'ai toujours estimée la plus adaptée, pour la plus accessible pour le Congo. C'est ce qu'on appelle le seigneuriage. Un État peut se financer par le seigneuriage, c'est-à-dire par la politique monétaire, par la création monétaire. Je ne veux pas tomber dans le piège de ceux qui ont colorié d'une certaine façon ce que nous appelons la planche à billets pour la rendre essentiellement une chose péjorative, négative. Mais je voudrais dire qu'il n'est pas aujourd'hui un pays qui ne se finance pas du seigneuriage. Il n'y a pas un seul pays au monde qui ne se dote pas de ces ressources qu'on appelle le seigneuriage. Et dans le cas de la RD Congo d'ailleurs, il y a, pour ne pas le citer, mon estimé ami Noël Tchani qui a écrit un livre dans lequel il démontre que chaque année, la RD Congo perd au moins 600 millions de dollars qui devraient lui revenir comme seigneuriage, mais qui rentrent plutôt dans le trésor américain parce que la dollarisation, la dollarisation crée un manque à gagner à la RD Congo de plus de 600 millions de dollars chaque année. Mais je pense qu'un État sérieux peut développer une politique monétaire responsable. Pas une politique monétaire comme on l'appelle toujours aussi, une politique monétaire prudente, qui n'est rien d'autre, à mon avis, qu'une façon de rendre notre monnaie frigide vis-à-vis d'une économie qui a besoin de la dynamique, qui a besoin d'être financée, qui a besoin d'être financée en ressources propres, en ressources nationales. Et que cette économie soit exposée comme ça en proie à des intérêts étrangers à travers des mécanismes de dollarisation et des investissements étrangers quelconques, là je trouve ça irresponsable. Il faudrait que nous puissions repenser au niveau de l'État congolais la nécessité d'une politique monétaire responsable qui permette le financement de l'économie en monnaie nationale. On ne doit pas avoir peur de créer de la monnaie lorsqu'il est question de financer les investissements nationaux. C'est à cela d'abord que sert la politique monétaire. La création monétaire ou l'émission de la monnaie n'existe pas en politique pour financer l'inflation. Non, l'inflation est une conséquence malheureuse d'une mauvaise affectation des ressources qui ont été créées, pourvu que ces ressources soient d'abord préalablement créées. Alors, ne pas créer des ressources monétaires parce qu'on a peur de l'inflation, c'est sombrer dans l'inaction. C'est empêcher l'économie d'être dynamique, et ça, c'est un problème.
La troisième voie?
C'est l'emprunt. La troisième voie, c'est l'emprunt, et l'emprunt peut être intérieur ou extérieur. Je veux dire, à l'intérieur, il faut développer à ce moment-là ce qu'on appelle le marché financier à l'intérieur. C'est-à-dire que l'État ou les différents États respectifs peuvent recourir à l'épargne intérieure. Emprunter. On emprunte par quel mécanisme? Par des titres, par les bons du trésor, par les obligations, par les billets de trésorerie, par des papiers commerciaux. Ce sont des mécanismes par lesquels l'État, comme les entreprises privées, peuvent accéder à l'épargne intérieure, et les épargnants ont intérêt à voir se développer ce genre de marché parce que c'est la meilleure voie pour
rémunérer leur épargne.
Ça, c'est l'emprunt intérieur, qui suppose malheureusement que l'épargne à l'intérieur soit suffisante pour permettre un tel emprunt. Lorsque l'épargne intérieure n'est pas suffisante, et c'est justement le cas pour le Congo, étant donné la faiblesse de notre revenu intérieur, de notre revenu national, à ce moment-là, il faut être capable de développer la voie de l'emprunt international. L'emprunt international suppose que nous avons la capacité d'accéder aux marchés internationaux, aux marchés financiers internationaux.
Mais à ce niveau-là, Michel Somoué, parce qu'il y a même le ministre de l'Énergie qui a évoqué cela lors de la formation des commissaires spéciaux, pensez-vous aujourd'hui que ces nouvelles provinces ont cette capacité de pouvoir recourir à ces emprunts sur les marchés internationaux aujourd'hui dans cette configuration?
Mais c'est d'abord une décision d'ordre politique. D'ordre politique, pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure en introduisant que il faut que l'État congolais rende effective la disposition ou des dispositions de l'article 3 de la Constitution qui stipule que les nouvelles provinces sont dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion. Il ne faut pas que, pour qu'une province recourt à l'emprunt international, qu'on passe d'abord par le gouvernement central et peut-être par le Parlement national, par l'Assemblée nationale. Je trouve ça inutile. Moi, je pense qu'à partir du moment où la Constitution reconnaît à ces provinces sa personnalité juridique, il faut les laisser libres de se mouvoir à travers le monde pour mobiliser des capitaux internationaux qui n'ont besoin que d'être empruntés.
Voilà.
Le marché financier international existe. Et nous, qu'est-ce que ce marché demande? Le marché ne demande que des garanties, des collatéraux qui soient de bonne valeur. Et il n'est pas un seul pays au monde qui dispose de telles garanties plus que le Congo.
Merci.
Parce que toutes les ressources naturelles les plus recherchées dans le monde, on les trouve au Congo. Donc il n'y a personne qui s'en fout de nos avoirs, de l'or, du diamant, du coltan dont le Congo dispose en surabondance.
Vous avez évoqué ces trois voies, les ressources propres, vous n'avez pas tellement encouragé ça, compte tenu de la fragilité de la situation, de la précarité, ça risque de générer des conflits au niveau des impôts, des taxes qu'il faudrait aujourd'hui recouvrer dans ces nouvelles provinces, mais vous pensez que la création monétaire peut résoudre la question du financement des infrastructures au sein de ces entités, mais aussi recourir à des emprunts, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Merci. On va revenir à vous, le temps d'écouter les auditeurs. 081-890-7315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines.
Parole aux auditeurs.
Maître Adrien, vous êtes avec nous dans cet échange. Comment alors permettre à la province du Kasaï central et la province du Kasaï avec le commissaire spéciaux à arriver à financer les infrastructures de base pour leur permettre quand même de fonctionner, résoudre quand même les besoins de la population? Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Pierrot et la MJ. Bonjour à monsieur Michel. Bonjour.
Maître Adrien, pourriez-vous vous déplacer un tout petit peu parce que là, on a des petits soucis de connexion avec vous à Kananga. Tout en intervenant, vous essayez un peu de vous déplacer, oui.
Oui, je disais que bonjour Pierrot. Et puis, permettez-moi de commencer d'abord par saluer la nomination du bâtonnier Ambroise Kamukuni, qui est un honneur pour tous les avocats de la province, ex-province du Kasaï occidental d'aujourd'hui. Et je passe, Pierrot, pour répondre à votre question, contrairement à ce que M. Michel Soum venait de dire. Moi, je pense que les nouvelles provinces doivent vraiment s'atteler sur les ressources propres en soignant, donc la bonne gouvernance, en soignant la gestion, parce que toutes ces provinces, ce sont des entités jadis bien organisées. Les unes ont fonctionné comme provinces déjà, et les autres comme des districts. Donc il y avait déjà une organisation mise en place pour qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y aura pas vraiment de difficultés pour que ces provinces ne puissent pas bien vraiment se prendre en charge. Deuxièmement, je pense que le moment est arrivé, Pierrot, pour que le gouvernement congolais, le gouvernement central, évidemment, fasse allusion ou bien application à la caisse de péréquation. Parce que ce n'est pas une honte. Il y a des provinces qui sont bien nantis, bien outillées financièrement, et les autres n'ont presque rien. C'est comme ça que moi, je pense que si on mettait aussi en application la caisse de péréquation pour venir en aide à certaines provinces démunies, ça serait aussi l'une des solutions. Maintenant, là où je n'étais pas tout à fait d'accord avec M. Michel Soumoué, c'est lorsqu'il propose donc l'emprunt. L'emprunt, je pense que qui doit le contracter? Le gouvernement provincial ou bien le gouvernement central? Parce que si c'était dans un État fédéral, ça se comprendrait. À ce moment-là, chaque province, donc chaque État, allait contracter sa dette, mais dans les cas sous examen. Puis, c'est pour le gouvernement provincial ou bien les commissaires spéciaux qui doivent contracter les différentes dettes. Je crains que ça ne puisse pas créer un blocage pour les modalités de restitution. Mais si c'est pour le gouvernement central qui peut contracter des emprunts, oui, là, ça se comprendrait parce que le gouvernement central a une certaine crédibilité. Et pour le reste, Pierrot, je pense que je suis en train maintenant d'interpeller donc les assemblées provinciales. Les assemblées provinciales doivent maintenant changer aussi leur façon de se comporter parce qu'ici, il y a un besoin terrible qui se pose. Par exemple, la province du Kasaï central et la province du Kasaï, il faut chercher d'abord à mobiliser les ressources et si les députés continuent toujours à se comporter comme ils le faisaient autrefois lorsque la province était encore unie, donc toutes les recettes risquent vraiment de se canaliser vers leurs propres besoins. Ici, ils doivent comprendre que les deux provinces font face à une difficulté financière. Il faut aussi aider donc, les comités spéciaux pour faire face à tous ces besoins.
Voilà, il y a une détérioration de ligne avec vous, Maître Adrien, à Kananga.
On fera face à l'émergence.
Voilà. Merci beaucoup, Maître Adrien. Malgré les petits soucis que nous avons eus, vous avez insisté sur le fait que vous n'êtes pas d'accord avec notre invité en disant que c'est le moment d'ailleurs de pouvoir instaurer la bonne gouvernance dans ces nouvelles provinces pour gérer les ressources propres parce qu'il y a déjà des entités qui ont existé comme chefs-liés de anciennes provinces avec des ressources financières qui doivent être en principe canalisées dans la bonne gouvernance. On peut arriver à financer les infrastructures. Mais vous avez aussi évoqué maintenant la mise en application de cette disposition de la Constitution autour de la caisse de péréquation dont la loi, je crois, bien a été évoquée dans cette émission Parole aux auditeurs. Mais quand il s'agit des emprunts, vous avez peur que les commissaires spéciaux dans leur fonctionnement, c'est un peu différent, bien sûr, avec la loi sur la libre administration des provinces, avec les gouvernements provinciaux qui étaient contrôlés par les assemblées provinciales. Et vous avez peur que les commissaires spéciaux ne soient pas à mesure de pouvoir contracter contracter des emprunts à l'extérieur, à moins que ça soit négocié et par des engagements du gouvernement central. Mais du moins, avec une volonté de la bonne gouvernance, on peut arriver quand même à faire face à certains besoins au niveau de ces provinces. Merci beaucoup, Maître Adrien, de nous avoir appelé de Kananga, dans la province du Kasaï central. On vous accorde la parole directement, Michel Somoué, pour une réaction par rapport à ce que notre ami disait. C'est vrai que nous avons un problème aujourd'hui. Les commissaires spéciaux, c'est pas dans la configuration des gouvernements provinciaux comme bien établi par la loi sur la libre administration des provinces. C'est aussi ça un problème qui va se poser. De quelle manière doivent-ils se comporter en termes de mobilisation des recettes, les canalisations, mais aussi les engagements qu'ils doivent avoir, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, dès lors qu'ils ne fonctionnent pas comme dans la configuration prévue par la Constitution, gouverneur, vice-gouverneur, ainsi que Assemblée provinciale Michel Somoué.
Oui, Maître Adrien fait une réflexion très pertinente, mais qui reste malheureusement idéaliste, à mon humble avis. C'est-à-dire la réflexion qu'il fait, elle peut tenir dans un pays où les choses fonctionnent de façon normale. Quand il parle, par exemple, des ressources propres, en disant que il encourage la fiscalité parce qu'il y avait déjà des provinces qui existaient déjà sous une forme ou une autre, et que ce sont des acquis, on n'a qu'à continuer, ça serait plus facile encore davantage parce que c'était déjà fait. Mais il oublie que, justement, nous vivons des budgets, repassez-moi mon terme habituel, chétifs, parce que notre État a toujours été incapable de lever l'impôt dans ce pays. Et vous n'allez pas lever l'impôt sur des revenus de subsistance, qui sont du reste des revenus qui mettent le Congolais en deçà du seuil de pauvreté. Ça, vous allez lever l'impôt sur quoi? Parce que n'oubliez pas que à l'époque coloniale, jusque dans les années 70, moi je sais que même dans tous nos petits villages, tout le monde payait l'impôt. Chaque individu payait l'impôt. Je me souviens très bien que dans mon quartier où je vivais, dans mon petit village à Tchofa, on savait qu'à telle date, les agents des impôts allaient passer, et il y avait des papas qui se cachaient derrière des maisons qui entraient dans la brousse ou qui se cachaient dans des trous réservés aux immondices parce qu'ils ne sont pas capables de payer l'impôt ce jour-là. Et ils se faisaient dénoncer par les autres. Et on mettait la main sur eux et on les obligeait à payer les impôts, y compris en nature. Mais aujourd'hui, cela n'est plus possible. Non seulement il y a ce que nous appelons la dépense fiscale, qui est de loin au-delà de la recette fiscale, parce que ce que l'État supporte comme coût pour lever l'impôt, étant donné l'étendue de l'économie informelle, ne permet pas à l'impôt d'être efficace. Donc ça fait que nous vivons continuellement des budgets précaires, des budgets chétifs, qui à la longue finissent par des simples simulacres de gâchis, qui dégénère en détournement, en corruption, parce que, à un moment donné, l'État se trouve dans l'incapacité de répondre à ses obligations. Comme il n'est pas possible d'affecter les miettes qu'on reçoit pour pouvoir satisfaire tous les besoins indispensables, nécessaires et même incompressibles d'une nation, l'État se réfugie dans une politique d'émiettement, d'une politique de corruption, du sauve qui peut. Et voilà pourquoi je dis la politique fiscale, même dans la situation actuelle de notre pays, n'est pas efficace. Il ne faut pas qu'on continue à nous contenter d'une politique qui nous appauvrit davantage et qui davantage nous divise à travers des mécanismes de corruption, que j'allais dire même à la limite involontaires. Voilà pour ce qui est de la fiscalité. J'ai toujours dit, pas à cause du démembrement actuel, j'ai dit ça depuis plus de 5 ans, qu'il ne faut pas que l'État s'encourage ou se cramponne dans cette politique fiscale qui ne sera jamais efficace. Qu'on commence d'abord par organiser, structurer nos économies, et en attendant, pour y parvenir, on peut remplacer l'impôt par le seigneuriage. Ce n'est pas un crime. Mais non seulement le seigneuriage, on peut remplacer l'impôt justement par une politique monétaire efficace de crédit au privé du cas. La Banque centrale a l'obligation d'émettre de la monnaie pour alimenter l'économie nationale. Mais la question est celle de savoir comment gérer ces ressources qui vont être générées par la politique de création monétaire. Il faut financer l'économie, il faut financer l'État par la politique monétaire, par les avances de la Banque centrale. Malheureusement, la Constitution interdit cela, et moi je dis sur cette question-là, la Constitution s'est trompée. Mais pour ce qui concerne la caisse de péréquation, mais c'est la même chose. On ne peut pas partager la pauvreté. La crise de péréquation, elle est prévue par la Constitution. Mais quel est le revenu de l'État qu'il va redistribuer pour égaliser les chances de toutes les provinces? C'est encore une fois la pauvreté qu'on va se partager, ça ne sert à rien. Donc c'est ça, ça sera des émiettements qui n'auront aucun impact sur la société congolaise.
Voilà, on va écouter Maître Trésor qui est ici à Kinshasa. Merci de vous être joint à nous. Vous avez suivi Michel Somoy qui insiste sur cette problématique de la caisse des péréquations. Quand nous prenons par exemple c'est la province de Bandundu qui est démembrée, bien sûr, quand vous prenez le Kasaï démembré, il y avait déjà des problèmes sérieux de ressources financières qui s'est posé. Pensez-vous que la province du Kasaï central soit à mesure aujourd'hui de pouvoir, dans la caisse des péréquations, partager les revenus avec la province du Kassai, tout comme le Kassai oriental avec le Sankuru ou bien l'Omami? Voilà autant de questions qui se posent, mais le besoin est réel dans l'augmentation de ce nombre des provinces. Il faut quand même arriver à financer les infrastructures. Maître Trésor, bonjour. Qu'est-ce qui doit être fait?
Bonjour Pierrot, Maître Trésor Likosa. Je pense que on va vite en besogne pour parler de la caisse nationale des péréquations. On ne peut pas parler de cette caisse sans parler des budgets de chaque nouvelle province. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune de ces nouvelles provinces n'a un budget provincial voté par les députés provinciaux. C'est déjà un problème. Les commissaires spéciaux qui viennent d'être nommés, ils vont entrer en fonction. Ils vont lever les impôts, les taxes, les redevances et autres droits. Je ne sais pas si cela se fera sur base de quels documents chiffrés. Puisque pour collecter l'impôt, on doit se rassurer que les élus du peuple ont donné l'autorisation au chef de l'exécutif de procéder à l'imposition, soit dans un district, dans un territoire, dans un autre, dans un secteur, ainsi de suite. Jusque-là, on n'a pas ces documents-là qu'on appelle budget. Maintenant, les commissaires spéciaux sont nommés en vertu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui demande au gouvernement de prendre les mesures transitoires et exceptionnelles. C'est que les commissaires spéciaux et leurs adjoints sont exceptionnels. Leur gestion sera également exceptionnelle. C'est pourquoi, avant même de parler de la caisse de péréquation, moi je pense que le gouvernement central qui a pris une telle décision devrait mettre à la disposition de ses commissaires spéciaux un crédit provisoire. Donc, pour permettre à chaque commissaire d'être à la hauteur de sa tâche et permettre également aux Congolais de suivre la gestion quotidienne de chaque nouvelle province et même d'avoir l'opportunité de procéder à ce qu'on appelle contrôle citoyen. Puisque ces commissaires spéciaux ne seront pas contrôlés par les députés provinciaux, ça nous devons le dire, les députés provinciaux n'ont pas cette qualité-là, n'ont pas les pouvoirs et la Constitution ne leur donne pas mandat de contrôler ce qu'on appelle aujourd'hui commissaire spéciaux. D'ailleurs, la Constitution ne les reconnaît pas. Mais puisqu'il s'agit ici d'une mesure exceptionnelle, nous devons accepter, mais nous devons également prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre à ces commissaires d'être à la hauteur de leurs tâches et de permettre également au gouvernement central lui-même de veiller à leur performance et voir où ça ne marche pas, il faudra rapidement procéder à la permutation de ces commissaires ou même relever certains de leurs fonctions pour peut-être incompétence ou bien manque de performance. Eh bien, il faudrait qu'il y ait un document du genre budget. Et comme les députés provinciaux ne sont pas à même de voter le budget en ces moments précis, j'ai dit qu'il serait idéal et agréable à ce que le gouvernement central puisse allouer un crédit provisoire. Mmh. Et dans son budget qui vient de passer par le Parlement, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de plus grand pour ces nouvelles provinces. Mmh. Parce que les budgets des provinces sont intégrés dans le budget de l'État, alors que les provinces n'ont pas encore des budgets, ces nouvelles provinces.
Voilà, donc, merci.
Ça pose un problème. Alors, ils ne peuvent pas procéder à des appels
merci.
D'offres, étant donné qu'ils n'ont même pas l'idée générale sur leur gestion.
Voilà, merci beaucoup, Maître Trésor, 081-890-6315.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Voilà, merci Maître Trésor tout à l'heure qui est en train d'expliquer qu'il est dans ces conditions, c'est difficile parce que ces nouvelles provinces n'ont pas encore des budgets élaborés. Il y a un problème dans le mécanisme des fonctionnements. Alors, faudrait-il aujourd'hui que le gouvernement central prévoie un crédit provisoire qu'on pouvait mettre à la disposition de ces commissaires spéciaux pour leur permettre de pouvoir fonctionner vu le caractère exceptionnel de cette façon de gérer les provinces. Faudrait-il aujourd'hui une gestion exceptionnelle, de mécanismes exceptionnels compte tenu de la situation? Merci beaucoup, Maître Trésor. Madame Joséphine, vous êtes à Boston, aux États-Unis d'Amérique. Bonjour, Madame Joséphine. Merci de vous être jointe à nous.
Bonjour, Radio Capi. Je vais dire ceci, je vais remercier d'abord tout le monde, les gens qui m'ont appelé pour dire que pourquoi je n'interviens pas. Bon, c'est à cause de l'heure qui a changé. Bon, maintenant, j'y reprends. Bon, je vais commencer à me réveiller à 5 heures.
En tout cas.
Je remercie l'invité. Il est en train de nous donner cours. Il est intelligent, mais ce que moi je veux dire, avec le Congo, le niveau de Congolais, je crois que nous devons ramener le débat plus bas, ou bien faire le débat, que le débat soit un peu simple, avec de simples mots. Je vais virer vraiment une virage vraiment gauche. Ce que je vais dire, le Congo a été divisé avec les régions qu'on a connues, les 9 régions qu'on avait connues, les 11 régions qu'on avait connues avant. Moi, je considère ça, c'était économiquement divisé. Mm-hmm. Maintenant, ce que les politiciens ont fait, et ils ont divisé le Congo, ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'est la politique. Moi, je crois qu'il ne faut pas suivre ce qu'ils ont fait. En tant qu'économiste, notre invité est là. Il sait avec les anciennes régions qu'on avait avant, toutes les régions, à part la région de Kasaï-Oriental, c'était des régions qui avaient des inbound et outbound. Inbound, j'ai dit que inbound, ce sont des entrants. Donc, toutes les régions avaient des pays limitrophes. Mm-hmm. Donc, il pouvait y avoir les entrants, donc les gens qui amènent et puis les gens qui sortent, à part la région du Kasaï. Et maintenant, avec ces découpages ici, nous parlons de ressources, nous parlons de fiscalité, nous parlons de caisses de
péréquation, tout ça, oui.
De péréquation. C'est impossible. Si vous voyez la carte telle qu'on a divisé maintenant le Congo, économiquement parlant, il y a des régions qui n'auront pas de ressources. Mm-hmm. Comme notre invité a dit, les taxes, on les paye, c'est quand on travaille. Quand est-ce qu'on paye les taxes? C'est quand on a des revenus. Les Congolais n'ont pas de revenus. Il y a des régions, c'est enclavé, totalement enclavé. Ce que je veux conseiller à notre gouvernement, si on veut parler de revenus, de ressources, maintenant, il faut rentrer à notre Congo de 11 régions. La région de Kasaï-Oriental avait avec la MIBA, et on peut encore rentrer à la MIBA et puis faire fonctionner la MIBA, et puis on va donner aux gens des ressources sur lesquelles on va prendre les impôts. Mmh. Ce que moi je conseille, ce qui se passe au Congo, on est en train de confondre la politique et l'économie. Par exemple, quand on voulait faire des découpages, est-ce qu'on a appelé les économistes pour dire que ce que nous faisons ici, comment les régions peuvent fonctionner économiquement? Est-ce que l'invité est là? Même lui, là, il intervient tout le temps. Est-ce qu'on l'a consulté? On lui a posé la question? C'est ça le problème avec notre gouvernement. Il n'y aura pas de... Comme il a dit, il y a des régions enclavées, totalement enclavées. Ils n'ont rien. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Pas de ressources de population. C'est ça mon intervention. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Madame Joséphine. Merci d'avoir renoué avec les interventions d'En Parole aux auditeurs. C'est vrai, c'est un sacrifice réveillé à 3h, à 4h, à 5h pour intervenir à partir des États-Unis. Merci beaucoup pour votre fidélité à cette émission. Mais vous avez quand même insisté pour dire que dans la configuration actuelle, c'est difficile parce qu'il y a des provinces qui vont se retrouver totalement enclavées, qui sont très, très enclavées, qui n'ont pas de débouchés. Comme du temps de 11 provinces, on pouvait avoir des... La plupart des provinces avaient des contacts avec les pays limitrophes, ce qui permettait aussi quand même certains échanges, n'est-ce pas? Que ce soit le Kassai occidental avec l'Angola, que ce soit le Bandundu dans l'ancienne configuration avec l'Angola, le Katanga, la Zambie, une partie de l'Angola, la province orientale avec la Centrafrique, les Soudans du Sud, et il y a des problèmes qui vont se poser, c'est vrai, parce qu'il y a des provinces qui vont se retrouver complètement enclavé, et ça sera difficile dans cette configuration de la pauvreté, de manque des revenus, que ces provinces puissent se financer. S'il serait mieux que ces découpages soient accompagnés par des mesures économiques, ça pouvait être très très bon. Merci beaucoup, Madame Joséphine Arsène. Vous êtes à Kikwit, dans la province du Kulu. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Monsieur Pierret. Bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Et comment votre province de Kulu peut-elle aujourd'hui arriver à financer ses infrastructures de base dans cette configuration?
Ok, merci beaucoup. Moi, je crois, à mon avis, d'abord, je considère ça comme ce qu'on appelle chez nous Mavanga Monandinga. Ça veut dire tour de Babel. On dit autre chose, on fait autre chose. Mais le plus grand problème se pose au niveau de la confiance populaire. Qu'est-ce que la population? Comment la population est en train de recevoir le nouveau dirigeant de cette province? Ça, c'est la première chose. La seconde chose, la province ne peut pas marcher avec des fonds qui vont venir, je ne sais du ciel ou je ne sais d'où. C'est le contribuable. Et le contribuable ne peut participer au développement de cette province qu'à partir d'une confiance qu'elle donne à ses dirigeants. Ça, c'est d'une part aussi. De l'autre côté, je vois un peu l'évolution de la nation, comment elle est en train d'évoluer. On est en train d'attendre un certain dialogue qu'on est en train de préparer sur les élections, comment ça va se passer. Bon, jusque-là, moi je considère ça comme un petit désordre qui ne va rien entraîner à part peut-être de la propagande inutile. Nous sommes au plus bas de l'échelle aujourd'hui, parce qu'il n'y a aucune organisation qui est assise sur des bases correctes. Bon, ce que les dirigeants doivent faire, c'est d'abord gagner la population, la confiance populaire. Et pour gagner la confiance populaire, il n'y a pas de chemin. Il n'y a que les élections et des élections crédibles. Il faut donner un programme que la population puisse comprendre que non, voilà, nous allons élire nos dirigeants. Et à partir de là, la population aura confiance. Et le contribuable peut faire son travail aussi de contribuer au financement de la province correctement. Et il y aura un programme commun. Au cas contraire, ça serait juste remplir les papiers, remplir des formalités. Voilà un peu comment est-ce que je suis en train de voir la situation.
Merci beaucoup, Arsène. Vous estimez que dans cette configuration de nomination des commissaires spéciaux, on a déjà fait les débats sur la procédure elle-même, on peut-être pourra pas y revenir, mais bon, vous estimez qu'il y a une crise de confiance qui s'installe entre les administrés et ceux qui vont les administrer. Et dans cette configuration, dans cette base, il sera difficile qu'aujourd'hui la population ait confiance pour mobiliser les ressources nécessaires qui puissent permettre à ce que les commissaires spéciaux travaillent dans le financement de ces infrastructures et dans le développement de leurs entités. Et pour vous, vous estimez que tout doit être résolu d'une base juridique correcte, et cela peut entraîner aussi le développement de ces entités. Je crois bien d'ailleurs, dans cette série des émissions consacrées aux nouvelles provinces, demain on pourra avoir l'angle en ce qui concerne le transfert des compétences et la rétrocession. Ce sont les matières qui seront abordées demain dans Parole aux auditeurs. Merci beaucoup, Arsène, de nous avoir appelé dès que Cuit est dans la province de Kwilu. Nous avons Michel Somoy qui est en ligne. Vous avez suivi encore les autres compatriotes qui se sont exprimés. C'est vrai que la configuration actuelle dans laquelle les provinces sont gérées d'une manière exceptionnelle, ça pose vraiment un véritable problème. Madame Joséphine estime qu'avec l'enclavement de ces provinces, c'est ce que vous avez déjà évoqué en évoquant la précarité et la pauvreté, ça sera difficile de permettre à ce que certaines provinces puissent se retrouver aujourd'hui. Mais là aussi, en regardant l'état de l'économie, vous l'avez dit, l'état de notre budget, est-ce qu'on peut aussi espérer qu'il y ait des crédits provisoires, comme le disait tout à l'heure Maître Trésor de Kinshasa, qui puissent permettre à ce que ces provinces financent leurs infrastructures et pourtant se retrouvent et que la population quand même se sente d'une manière ou d'une autre administrée et gérée et que le besoin des bases soit résolu aujourd'hui.
Oui, merci Thierot. Je crois que pour répondre à toutes ces préoccupations, je dirais d'abord à Maître Trésor que le budget ne doit pas être considéré comme un simple alignement des statistiques, des chiffres. Le budget est une réponse à des problèmes concrets qui se posent pour les conditions de vie de la population. Et dans le cas d'espèce, nous avons de nouvelles provinces. Il faut que ces provinces existent pour que la population qui sera gérée par ces provinces trouve son compte, se sente en sécurité, se sente dans les meilleures conditions d'existence. Donc c'est par rapport à ça qu'on a posé la question d'équipement de ces provinces, de la construction d'infrastructures de base et tout ça. Or, même si on accordait un crédit provisionnel, comme il le dit, à ces nouvelles provinces, en disant que, bon, il a parlé du crédit provisoire, en disant qu'il n'y a pas encore eu de budget voté par l'Assemblée provinciale, une nouvelle Assemblée provinciale par rapport à ces nouvelles provinces. Mais si je reviens à l'intervention de Maître Adrien, qui disait déjà que nous sommes dans la continuité parce que ces nouvelles provinces avaient existé au préalable sous forme de districts, je suppose que ces districts avaient des budgets. Et que on pouvait bien parler du crédit provisionnel en partant du budget des districts anciens. Mais cela n'est pas le débat. Moi, je pense que quand bien même on accorderait ce crédit, il serait toujours dérisoire et il ne répondrait à aucun problème, il n'apporterait aucune solution à un quelconque problème qui se pose aujourd'hui dans ce pays. Exactement comme le budget de l'État lui-même, sur lequel d'ailleurs le même Maître Adrien sollicitait la péréquation, le budget de l'État lui-même ne suffit même pas à satisfaire le besoin de la seule ville de Kinshasa. Et pour revenir à ce que disait Mme Joséphine, que je salue parce que c'est la deuxième fois que je rencontre cette émission, je vous ai dit qu'on ne doit pas avoir trop peur du fait que nous n'avons pas, pour certaines provinces, ne partagent pas de frontières avec des pays voisins. Vous savez, en économie, il y a ce qu'on appelle, même si je demande qu'on utilise des mots simples, écoutez, il y a le jargon, en science économique, il y a ce qu'on appelle de grands pays et de petits pays. Les petits pays sont des pays qui dépendent essentiellement du commerce extérieur. Des grands pays sont ceux qui ont développé le marché intérieur. Quand nous parlons d'organisation de l'économie nationale, nous visons au préalable l'organisation d'un marché intérieur suffisamment large. Un marché intérieur, c'est-à-dire une offre et une demande intérieure. Une offre qui s'adresse à la demande qui s'adresse à l'offre, mais toutes les deux étant intérieures. Dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, qu'on appelle d'ailleurs, lorsqu'elle atteint un certain degré, une extraversion pathologique, n'est même pas encouragée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons travailler avec toute la volonté nécessaire pour construire un marché intérieur, c'est-à-dire construire une économie nationale. Une économie nationale comme un système intégré, un jeu des interrelations, de telle sorte que si telle variable bouge, elle va entraîner dans son jeu telle et telle autre variable, et non pas avoir une économie qui n'est rien d'autre qu'un amas de variables qui n'ont rien à voir avec l'existence de la population, l'existence de la société locale. Donc, moi je pense que le problème est celui plutôt qu'elle a évoqué, c'est-à-dire des décisions à caractère purement politique,
oui,
qui n'ont pas de regard particulier sur les exigences de l'économie. Et là, ça pose un problème.
Mmh.
Et c'est aussi à peu près ce que vient de dire l'intervenant de Kikwit, veut dire Arsène, je ne sais pas bien compris le nom de Kikwit.
Arsène, oui.
Oui, Arsène, qui dit qu'il y a un problème de confiance. On devrait commencer par, et c'est lui qui le dit, on doit commencer par organiser des élections crédibles pour que ces gens qui vont gérer ces provinces soit l'émanation de la volonté du peuple,
mm-hmm.
c'est-à-dire soit l'expression du choix de ce peuple. Lorsque ces gens se sont choisis eux-mêmes des dirigeants, ils n'ont plus de raison, ils n'ont pas de prétexte de ne pas leur faire confiance. À ce moment-là, même si ces dirigeants viennent vers eux pour lever les impôts, tout le monde va comprendre que c'est dans l'intérêt de chacun, dans l'intérêt
oui.
de tout le monde.
Mm-hmm.
Et c'est comme ça que j'ai rappelé dans les années 70 comment la population du village dénonçait les autres membres du même village qui se cachaient le jour de la collecte de l'impôt. Mais parce qu'il y a une confiance. Parce que tout le monde sait que l'impôt va nous servir à nous tous. L'impôt va aider à avoir des bons bâtiments, des beaux bâtiments. L'impôt va nous aider à avoir des bons soins médicaux, on va avoir un bon système éducatif dont nous avons tous besoin. À ce moment-là, tout le monde se sent engagé, tout le monde se sent concerné. Je devrais dire qu'aux États-Unis d'Amérique, d'ailleurs, à un certain degré de confiance, c'est-à-dire que quand quelqu'un n'a pas payé son impôt, il se sent lui-même, il se prend même pour un criminel. Mais aujourd'hui, chez nous, ne pas payer l'impôt passe pour quelque chose de normal. Parce qu'en fait, ceux qui payent l'impôt au Congo, ça représente à peu près à peine environ 2% de ceux qui devraient payer l'impôt. Et ça, c'est pas normal. C'est pour ça que je dis, ceci existe parce que, effectivement, on n'a pas encore assis les bases d'une économie qui soit fondée sur les exigences d'une société. L'économie doit être au service du fonctionnement de la société. L'économie doit être au service du bien-être de la société. Et pour qu'elle soit au service du bien-être de la société, il faut que chacun des membres de la société se trouve concerné par ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il soit ça du côté de l'offre, soit du côté de la demande. Et non pas continuer à exister comme nous le sommes aujourd'hui avec une offre qui s'adresse à une demande étrangère, une demande qui est adressée à une offre étrangère. Ça, c'est pas normal. C'est pour ça que je dis, d'entrée de jeu, moi je sollicite même qu'il y ait une amnistie fiscale pour qu'on permette d'abord à l'économie de s'organiser. Je voudrais, avant la fin de cette émission, Pierre et Lamézi, que l'opinion qui me suit comprenne que pour la énième fois, Michel Somme est en train de plaider pour le financement monétaire de l'économie congolaise.
Mm-hmm.
Que tout le monde comprenne que Michel Somme plaide pour la planche à billets. Je le dis, je n'ai pas honte. Qu'un économiste de valeur vienne me contredire que la planche à billets n'a pas aidé les États-Unis d'Amérique, que la planche à billets n'a pas aidé l'Angleterre, qu'elle n'a pas aidé l'Allemagne, qu'on vienne me le prouver ici.
Faudrait-il alors de mécanismes d'encadrement, oui.
Il faut une planche à billets et il faut que le financement monétaire soit le préalable pour qu'on organise notre économie nationale.
Et comme ça, les provinces pourraient se retrouver à 081-890-6315. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Mion, vous êtes ici à Kinshasa, on va vous accorder la parole.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioOkapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioOkapi.net, la radio en différé à votre service.
Mion, vous êtes ici à Kinshasa, on vous accorde la parole, bonjour. Lyon, vous êtes
oui,
avec
bonjour,
nous.
Monsieur Pierrot de la Mégie. Oui, je vous écoute. Je dis bonjour, monsieur Pierrot, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Voilà, vous avez suivi les uns et les autres votre intervention, oui.
Allô?
Oui, allez-y, on vous écoute, allez-y.
Allô?
Oui, allez-y, on vous écoute, votre intervention, oui.
Je n'aurais dit que c'est la décision de pouvoir, n'est-ce pas, démembrer les provinces a été. Au départ, une décision politique. Et donc, aujourd'hui, elle a des conséquences économiques qui nous amènent à faire, n'est-ce pas, aborder le débat d'aujourd'hui.
Mm-hmm.
Et donc, étant donné que le commissaire spécial qui venait d'être nommé était nommé dans un contexte, je vais dire, spécial, comme un auditeur l'a dit tout à l'heure, ils ont aussi des pouvoirs qui leur est dévolu d'une manière limitée par rapport au contexte de leur nomination. Il porte à croire que d'abord il y a des préalables qu'il faut réunir avant d'aborder cette question, notamment le fonctionnement effectif des institutions provinciales. Donc je voudrais aussi faire allusion aux commissaires spéciaux et même ainsi qu'à leurs gouvernements respectifs. Mais aussi les assemblées provinciales doivent être en mesure de fonctionner en même temps que l'administration. En ce moment-là, il faudrait qu'on fasse les états généraux dans différents secteurs de la vie économique au niveau de chaque province pour voir quelles sont les potentialités économiques qui peuvent, n'est-ce pas, permettre de booster chaque province. En ce moment-là, sur base de budget, je commence d'abord par le budget provincial, on pourrait être en mesure de voir qu'est-ce qu'on peut financer et qu'est-ce qu'on ne peut pas financer. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que le Congo, c'est vrai, c'est un sous-continent, mais nous avons des sérieux problèmes d'infrastructure. Il n'y a pas de route, il y a certaines régions qui sont totalement enclavées, mais à vocation, par exemple, agricole, qui nécessite à ce que le gouvernement puisse d'abord intervenir, prendre ses responsabilités en premier lieu. Et pour cela, si le gouvernement estime que les commissaires spéciaux doivent chercher le financement, je pense, de mon point de vue, qu'il n'y a que deux manières de pouvoir trouver le financement. La première manière, c'est d'abord de procéder, n'est-ce pas, à l'identification des ressources propres à travers les impôts. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas cette culture-là. Mais je pense que ce n'est pas pour autant que le gouvernement devait baisser le bras pour ne pas recouvrir les impôts. Parce que là, c'est la souveraineté de l'État qu'on veut de pouvoir recouvrir, n'est-ce pas, ces impôts-là.
Mmh.
Ensuite, le procès somme, je vais dire, faisait, disons, tout à l'heure, n'est-ce pas, au seigneuriage. C'est bien, c'est pas du tout mauvais. Mais je pense qu'il faut identifier les secteurs dans lesquels on va, n'est-ce pas, accepter d'imprimer ces billets-là pour les affecter. Parce qu'à partir du moment où nous savons tous comment la gestion est en train de se passer dans notre pays, à partir du moment où on va imprimer des billets, on va mettre dans l'économie, et si ça ne produit pas des effets, si ça ne booste pas effectivement l'économie, ça risque d'avoir des chocs je dire, très négatifs sur le fonctionnement de notre économie qui est pourtant jusqu'alors très précaire. Et pour finir, il faut que cela puisse engendrer des conséquences en arte. Je voudrais faire allusion ici au secteur de l'électricité, par exemple, et de l'eau. Une fois ce secteur peut être libéralisé, ça permettra justement d'attirer des investisseurs qui peuvent venir. Mais aujourd'hui, dire que le gouvernement provincial s'arroge ses droits d'aller se faire endetter ailleurs, je pense qu'avec les expériences que nous avons dans ce pays et tout ce que nous venons de payer comme dette dans ce pays, je pense que c'est vraiment une expérience de triste mémoire qu'on pourrait tolérer à ces gouverneurs qui ont été nommés sur base de décisions politiques de pouvoir engager les différentes provinces et puis aller se faire endetter. Donc là, je pense que il faut carrément écarter cette option-là. S'agissant des péréquations, aujourd'hui, le gouvernement central, je vais dire, n'est pas du tout ignorant de ce qui se passe. Ce n'est pas une manière de les activer, mais c'est en train d'établir un constat. Le gouvernement connaît très bien, parce que c'était dans la Constitution, c'était prévu qu'on allait démembrer, n'est-ce pas, les provinces. Alors il faut que le gouvernement dise, en prenant cette décision de mettre en pratique cet article de la Constitution, qu'est-ce qu'il avait prévu pour le bon fonctionnement de ces institutions-là. Parce qu'aujourd'hui, les gouverneurs, les commissaires spéciaux, je veux dire, qui sont nommés, doivent rentrer dans les provinces, ils doivent être installés, ils doivent former leur gouvernement, asseoir les assemblées provinciales, tout ça, il n'appartient pas à ces commissaires spéciaux d'aller se faire endetter pour venir faire ça. Là, ce sont les devoirs du gouvernement central qui doit d'abord le faire. Ensuite, les commissaires spéciaux pourront que s'occuper, n'est-ce pas, des bases de l'économie, je veux dire, des bases de ces investissements-là, faire, par exemple, attirer les investisseurs ou jeter les premières bases afin que ceux qui vont venir puissent, n'est-ce pas, continuer, ceux qui seront élus puissent continuer à faire ce travail-là. Mmh.
Merci beaucoup, Millon. C'est important ce que vous avez dit. Hein. C'est une décision politique, bien sûr, mais qui a des conséquences économiques. C'est pourquoi Madame Joséphine avait pensé tout à l'heure qu'il fallait associer des économistes dans l'étude globale de ces travaux et de démembrement pour savoir quelles seront les conséquences économiques dans la mise en place de ces nouvelles provinces. Mais vous avez pensé qu'il faut aujourd'hui identifier des ressources. C'est dans le devoir de l'État de pouvoir le recouvrer. Mais quant à la proposition sur la création de la monnaie, vous pensez qu'il faut des mécanismes pour éviter que cela ne puisse entraîner des conséquences un peu graves. Merci beaucoup. Nous allons prendre le dernier auditeur, professeur Robert est ici à Kinshasa. Peut-être en une minute et demie, le temps que Michel Somme puisse conclure. Professeur Robert, on vous accorde la parole. Bonjour et bienvenue.
Merci, bien-aimé. Bonjour, Radio Capi. Bonjour, les amis et l'invité, Monsieur Somme, que j'apprécie bien dans ces prises de position. Ce qui est utile pour moi, je pense que si la Constitution a décidé qu'il y ait 26 provinces et que le gouvernement actuel les a appliquées, ce que nous devons faire, c'est de les assumer. Assumer cette action, donner l'occasion à toutes les personnes qui sont concernées comme dirigeant de cette province, de travailler. Mais pour travailler, ils ne peuvent pas aller main vide. Ils doivent faire des états des lieux, convoquer les partenaires économiques, voir quelles sont les possibilités de développement qui peuvent s'offrir à eux, de façon qu'ils puissent lancer des programmes de développement qui vont finir à devenir compétitifs, puisque le pays est très vaste. Et tous les pays, dont, enfin, les régions, toutes les provinces ont toujours quelque chose d'utile.
Il qui peut être exploité, oui.
De mettre en confiance ceux que nous appelons les leaders d'influence. Si les leaders d'influence sont intéressés, ils vont bien...
Merci, professeur Robert. Merci.
Je vous en prie.
Voilà. Merci, professeur Robert. On se retrouve demain parce que la suite de ces échanges autour des nouvelles provinces continue demain avec le transfert des compétences et les débats sur la rétrocession. On va en parler demain dans Parole aux auditeurs. Soyez là encore demain, professeur Robert. On va poursuivre cet échange. On revient à vous, Michel Soumoué, en 40 secondes parce que là, il faut qu'on puisse conclure. Mais je rappelle encore que demain, on va continuer cet échange autour des nouvelles provinces avec les débats sur les transferts des compétences. On vous écoute rapidement, Michel Soumoué. En un mot pour conclure cet échange.
Bon, en un mot, je dirais ce qu'a dit le professeur Robert tout à l'heure, nous devons nous assumer. Nous avons une constitution qui prévoit les 26 provinces. Nous avons une décision qui a déjà été prise de nommer les commissaires spéciaux. On ne peut pas reculer parce que ça se fait comme ça. On doit avancer. Mais lorsque moi j'ai parlé des emprunts extérieurs, parce qu'il y a le collègue qui a certainement un collègue économiste, j'ai reconnu par le timbre de sa voix. C'est quoi Lyon qui a introduit Kinshasa, comme on va appeler comme ça à peu près. Lorsqu'il fustigie l'emprunt extérieur, parce que c'est de triste mémoire, je dis là, il se trompe, lamentablement. L'emprunt extérieur, la dette extérieure est inévitable. Vous savez, même les États-Unis d'Amérique sont endettés, ils doivent à la Chine plus de 4 000 milliards de dollars. Hein. Je ne connais pas un seul pays
merci,
qui peut lever son bout de dos pour dire qu'il n'a pas d'emprunt extérieur.
Merci beaucoup, Michel Soumoué. Voilà, merci. Merci beaucoup, Michel Soumoué. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes économiste. On va se retrouver demain pour la suite de débats autour de l'effectivité des nouvelles provinces avec le transfert des compétences ainsi que la question de la rétrocession. On se retrouve demain vendredi. Merci à Héritier Sigakala qui a mis en onde cette émission réalisée par Julie Feza qui a assuré aussi le standard. Pierrot et Lamige vous la présentez sous la supervision de Martin Sebou-Django et Parole aux auditeurs. Vous retrouve demain, comme je le disais tout à l'heure. Mais en attendant, nous sommes sur www.radiocapi.net. Merci et au revoir.